Je voudrais tout d'abord remercier le président de l'association de m'avoir convié à cette manifestation. Et puis, je voudrais remercier également M. Mendel-Puech qui a insisté à ce qu'un Dijonnais vienne parler devant cette assemblée d'une technique qu'on utilise depuis pas mal d'années sur le CHS de la Chartreuse. C'est une technique qu'on utilise depuis une trentaine d'années, mais qu'on a dû stopper à un moment donné parce qu'il fallait s'équiper d'une salle de réveil et avoir une salle de sismothérapie. Ce qui n'a pas été facile, et 7 ans pour aboutir à une unité de sismothérapie au CHS de la Chartreuse, après une tentative de plainte déposée devant le procureur de la République pour finalement défaut d'incapacité à soigner nos malades qui se suicidaient. J'en avais à peu près 4 ou 5 par an durant cette période des 7 ans. Donc je n'ai pas supporté. Alors voilà ici mon équipe qui est constituée par... deux collègues psychiatres et puis un anesthésiste et puis des infirmières, des secrétaires qui participent à ce travail. Alors, ce plan historique, il faut se rappeler que 400 ans avant Jésus-Christ, on s'est rendu compte que les convulsions par malaria permettaient de traiter certaines pathologies mentales. Et puis, 47 ans avant Jésus-Christ, le poisson torpille qui décharge l'électricité permettait là encore de résoudre certaines pathologies mentales. Et puis là, c'est un petit clin d'œil à Thierry Bougerolles sur la stimulation intracrânienne des noyaux sous-thalamiques dans le Parkinson qui avait été développé vers les années 80 ou même peut-être avant par le professeur Benabid. Peut-être s'agissait-il d'une première approche. De la folie à la conversion au 19e siècle, des pathologies lourdes pour lesquelles nous n'avions pas de traitement à l'époque, qui faisait que finalement, on aboutissait à des contentions qui persistent encore dans les hôpitaux psychiatriques. Et il y a, je me souviens, vers les années 80, cette femme qui est là attachée, je me souviens très bien que j'avais été confronté une fois à une patiente qui avait été attachée à un radiateur tellement elle était agitée. Et le lendemain matin, quand je me suis rendu compte dans le service, elle était brûlée au troisième degré. Autre technique, l'hydrothérapie. Et puis finalement, on aboutit à l'insulinothérapie par Sakel en 1933, puis von Meduna avec le cardiazole qui va déclencher, qui va modifier votre seuil épileptique et déclencher la crise commissiale pour aboutir, là encore, au traitement de certaines dépressions. Et puis vers les années 38, Bini Serletti, deux Italiens, qui ont fait leurs expérimentations sur des porcs, dans les abattoirs à Rome, pour aboutir à la mise en place de cette technique. Alors, c'était un peu sauvage, parce que quand on interroge les infirmiers d'il y a à peu près 50 ans, c'était l'horreur. Le médecin-chef passait, on allait prendre le malade, il pointait du doigt, j'ai pas connu, c'est ce qu'on m'a rapporté, pointer du doigt le malade à saisir, à électrochoquer, entre guillemets. Il y avait 3-4 infirmiers, des maousses costauds qui tombaient sur le dos du pauvre malade, et puis on le choquait sans anesthésie. On peut imaginer le traumatisme que ça pouvait entraîner chez ceux qui, finalement, assistaient à cette technique. En 50, le CT se modifie, bien entendu. La chlorpromazine apparaît vers les années 54, l'argactyle. Et puis, il y a un détracteur, Milo Forman, vole au-dessus d'un nid de coucou, vous avez tous entendu parler, qui va là mettre un frein à la sismothérapie. Et puis, elle va se redévelopper de nouveau vers les années 90 avec des guides, des guidelines, tant par l'ANAES que l'American Academy de psychiatrie. Et puis, il y a bien entendu des opposants. Milo Forman en est un des premiers. Alors, pourquoi ? L'électrocution. Aux États-Unis, on électrocute les gens. On va entraîner la mort. Donc, première chose. Deuxièmement, on cherche à maîtriser le comportement de l'individu. Et puis, d'autres idées ont émergé, notamment aliéner l'individu au désir d'une société. Donc, c'était quelque chose d'assez terrible. Le totalitarisme des psychiatres, on a vu en URSS, les neuroleptiques pour finalement supprimer tous les détracteurs, tous les opposants politiques. Finalement, c'était un malade livré au psychiatre, mal toléré. C'était un traitement, bien entendu, sans consentement. Et puis, il y avait l'aversion également des anesthésistes pour la sismothérapie, parce que pour la sismothérapie et la maladie mentale, j'ai l'impression que ce sont des gens qui ont peur de la maladie mentale, et que de fois j'ai entendu, je ne vous ferai pas de sismothérapie, je ne participerai pas à ces chants, pourquoi ? Parce que ça brûle les neurones, et que de fois j'ai entendu ça. Peut-être que Thierry Bolgerol, qui est également un spécialiste de la sismo et en a pratiqué, a peut-être entendu ce genre de discours. Le CT, responsable de suicide, hein, là encore, détracteur, ça perturbe la mémoire. L'hôpital carcéral, on attache les gens. Et donc, il y a eu de multiples controverses. Et sachez que la scientologie fait aujourd'hui partie de ces détracteurs les plus puissants, puisque moi, j'ai été menacé de mort pour avoir fait de la sismothérapie. Et à Sainte-Anne, les mêmes affiches ont été mises en place et sont allées jusque dans mon service pour déposer ces affiches. 1980, recrudescence d'utilisation. Eh bien, là, l'anesthésie générale est mise en place, la curarisation, des salles de CT prêtes, du monitoring, salles de réveil. Il y a le consentement du patient, il y a l'information. Et puis, on fait participer, bien entendu, les proches à ce type de technique. Sur le plan d'épidémiologie, est-ce qu'il y a des risques à la sismothérapie? Oui, il y en a. Eh bien, ils sont beaucoup plus faibles que les neuroleptiques qu'on utilise actuellement. Un décès tous les 140 ans, hein, c'est énorme. Hein. Un décès tous les 10 000 patients, un décès tous les 80 000 séances de sismothérapie. Alors, autre morbidité, y a-t-il atteinte des cellules neuronales au niveau cérébral? Eh bien, certains vont dire oui, d'autres, et la plupart, et notamment chez les études sur les singes, ont montré qu'il n'y avait pas d'atteinte neuronale. Il y avait simplement un remodelage avec très certainement des modifications dans le pulse des neurones au niveau de l'hippocampe, c'est-à-dire les deux structures de la mémoire, au niveau temporal. Atteinte de la cognition, oui, dans les suites immédiates de la sismothérapie, vous avez des troubles de mémoire. Hein, et il peut y avoir il y a le phénomène de confusion après l'anesthésie, il sort un peu de son choc, ça ne va pas durer longtemps, il y a un état de stupeur, ils sont en salle de réveil, et puis ça se passe pas trop mal, et la mémoire, effectivement, peut être touchée transitoirement. Il y a un syndrome frontal comportemental, ce sont des gens qui sont à ce moment-là dans une dynamique un peu particulière, avec un syndrome de dysexécutif, des troubles de la décision, de la stratégie, etc. Et puis au long cours, la mémoire rétrograde, parfois, mais surtout antérograde, peut-être atteinte. Mais c'est toujours résolutif. Hein. C'est très rare les cas où il y a pas, où les troubles de mémoire vont persister. Alors, les bénéfices de l'ECT, dépression, bah, vous savez, c'est un syndrome avec une série de symptômes. 100 000 dépressifs pour 1 million d'habitants. Et puis, c'est une technique d'action rapide. Hein. On sort rapidement de l'état dépressif après une sismothérapie. C'est également une technique qui prévient le suicide. Et le taux de réponse, il est fabuleux. 80-90% de résultats positifs quand l'indication est bien posée. Alors, sur le plan des indications psychiatriques, eh bien, vous voyez que ce sont le plus souvent des dépressions graves, des dépressions qui résistent aux traitements antidépresseurs. Il y a quand même 30 à 40% des gens qui résistent. C'est une technique qui intervient et qui est positive également dans le risque suicidaire et puis surtout dans les dépressions avec intolérance au traitement. Alors, la dépression, ça se manifeste comment? Eh bien, ça se manifeste par des troubles de l'humeur, d'une part, ça a été dit dans les exposés précédents, des troubles de la cognition, hein, fonction intellectuelle, des troubles du comportement moteur, hein, des tentatives de suicide, etc., de la violence, des passages à l'acte, de l'impulsivité, de la catatonie, et puis des troubles somatiques, avec des douleurs, avec des prises de poids ou des amaigrissements, type anorexie, et puis il y a toute une série de troubles neurovégétatifs qui vont émerger, c'est-à-dire la pathologie du sommeil. Voilà la dépression. On pourra reparler des critères du DSM, si vous voulez, mais bon. Quelles sont les indications? Eh bien, les indications, c'est la mélancolie. La mélancolie, c'est-à-dire l'état dépressif gravissime, avec parfois des manifestations délirantes, qu'elles soient stuporeuses, anxieuses, délirantes, etc. La manie, la bipolarité, hein, les troubles maniaques, les pathologies bipolaires. La schizophrénie, également, reste une bonne indication quand il y a une note dysthymique sous-jacente. Ça ne prétend pas guérir la schizophrénie. Hein. Les neuroleptiques ont un rôle fondamental dans cette histoire-là. La psychose puerpérale, après une grossesse, l'épisode délirant qui conduit soit vers des troubles bipolaires, soit vers un état schizophrénique. L'anorexie mentale, également. Hein, c'est une bonne manière de sauver les gens de cette anorexie qui en font des cadavres ambulants. Et puis la catatonie, alors ils sont figés, et donc là, le choc va permettre de résoudre assez rapidement cette problématique. Le CT, donc un retour rapide à la réalité. Les maladies neurologiques, la maladie de Parkinson, ça reste également une bonne indication dans la mesure où, dans ces pathologies neurodégénératives, la dépression est présente. L'électrochoc permet effectivement, dans les processus d'apathie, de douleur morale, de réguler la problématique. Les dépressions post-implantation, après stimulation des noyaux sous-thalamiques, ça a été démontré parce qu'il y a des risques suicidaires et donc la sismothérapie peut jouer un rôle extrêmement intéressant. Le syndrome malin des neuroleptiques, avec cette rigidité, cette fièvre, cette conduite d'instabilité du système neurovégétatif, c'est efficace. Et puis, l'état de mal épileptique. Alors, moi, je n'ai pas l'expérience, mais peut-être que Philippe Kahn en a l'expérience, peut-être que le professeur Bougerolles en a l'expérience, moi, je n'en ai pas, mais c'est une indication également sur des gens qui font des épilepsies à tour de bras. Hein. Ils en font 10, 15, et si vous ne les traitez pas, ça risque d'évoluer vers la mort. Et puis l'autre diagnostic également, c'est les étapes pseudo-démentielles, c'est-à-dire des gens qui se présentent comme des démences d'Alzheimer, et on ne sait pas au départ comment, si c'est un Alzheimer, si ce sont des sujets âgés, on ne sait pas. Est-ce que ce sont des mélancoliques? Est-ce que ce sont des états entrant dans le processus d'Alzheimer? Eh bien, l'électrochoc permet un diagnostic différentiel extrêmement rapide et avec finalement un diagnostic et une thérapeutique adéquate. L'électricité au cœur de la thérapeutique, eh bien oui, on va faire passer du courant dans le cerveau. Il y a une résistance et il y a une intensité. Et puis, il y a la crise commissiale. C'est la crise commissiale qui va manifestement jouer un rôle sur la modification de la modulation des neurones, de la plasticité neuronale et également un rôle sur la chimie cérébrale. Alors, autrefois, on utilisait le courant sinusoïdal. Aujourd'hui, c'est un courant carré avec des impulsions courtes. Les innovations, ce sont des pulsations ultra courtes, 0,5 millisecondes, avec des durées de stimulation qui varient entre 1 et 4 secondes. La fréquence, bien entendu, c'est en hertz. Et on va faire passer une énergie au niveau cérébral qui oscille entre 100 et 1152 millicoulombs. Voilà. Alors, l'objectif de tout ça, c'est de créer une crise commissiale, d'être le moins toxique possible, de rechercher le seuil épileptique, à quel moment il va déclencher, avec nos paramètres, la crise d'épilepsie, et on va essayer de s'y tenir pour éviter ces troubles de mémoire. Donc, l'objectif, dépolariser des neurones. Mode d'action, il est inconnu. Hein. L'impact... on peut imaginer les neuromédiateurs, on peut imaginer les hormones, on peut imaginer la crise convulsive, on n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, pour que ce soit efficace, on conseille aujourd'hui que la durée de l'épilepsie de 15 secondes est à peu près nécessaire, que la durée de la convulsion n'est pas associée à l'efficacité du traitement, que l'état post-critique, troubles de mémoire notamment, est corrélé à la crise, à la durée de la crise, et qu'il existe parallèlement une dépolarisation des neurones dans les structures profondes. Alors, une thérapeutique active en toute sécurité, il est important de démystifier la méthode. Hein. Qualité de conditions de réalisation, vous avez vu, il y a des salles de réveil, il y a des salles de stimulation, il y a une balance bénéfice-risque positive, il y a l'autorisation du patient, le consentement éclairé, il y a l'information, il y a la participation à la fois du patient, mais également... quand il s'y oppose, de la famille qui souhaite et qui insiste pour que soit réalisée cette sismothérapie. Et puis, c'est un traitement sûr selon les collèges, notamment le Royal College de Psychiatrie et l'ANAES 98. Ça n'a pas été révisé depuis. Les effets latéraux, les complications physiques, elles sont réduites avec l'anesthésie, avec la curarisation, parce qu'avant, les stimulations, ça entraînait quoi au niveau du muscle? Des déchirures musculaires, ça pouvait entraîner des ruptures de tendons, au niveau des os, ça fracassait les os, tellement la crise tonique était extrêmement importante, les dentitions, elles pouvaient être perturbées, fractures de dents, le psychisme, celui qui observait était perturbé et pouvait avoir un stress post-traumatique, donc vous voyez, c'était grave, mais tout ça s'est réduit parce qu'aujourd'hui, avec la curarisation et l'anesthésie, vous ne voyez plus rien. C'est juste une petite secousse, c'est tout. Donc le système cardiovasculaire en prend un coup également. Quand on stimule, il y a d'abord une bradycardie. Et puis après, quand il fait ses convulsions, il y a une tachycardie, il y a une augmentation de la tension artérielle. Et bien entendu, le risque, ça va être l'infarctus du myocarde, ça va être l'ischémie cardiaque, ça va être les troubles du rythme. Alors, y a-t-il des contre-indications? Oui, elles ont été définies par l'ANES en 1998. La seule contre-indication, c'est l'hypertension intracrânienne, avec le risque d'engagement. Vous choquez, vous tuez, il y a un engagement, c'est terminé. Et là, vous vous retrouvez en justice. Je vais vous donner un petit exemple. C'est un type qui est arrivé un jour hospitalisé dans mon service. 8 mois de dépression, Vu par un collègue, vu par le généraliste, vu par le collègue neurologue de Beaune, qui dit ben non, il n'y a rien, vu par les psychiatres, des collègues psychiatres qui disent non, tu peux y aller, vas-y, mon coco, fais ta sismo, il y a 8 mois qui souffrent. Bien m'en a pris, je fais systématiquement un scanner. Hein. J'ai eu des problèmes avec mon administration qui estimait que je coûtais trop cher. Bon, enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais. donc, on fait le scanner. J'avais fait l'examen neurologique, je ne trouve qu'un petit nystagmus dans le regard latéral. Et puis, je fais l'EEG, bien entendu, parce qu'à l'époque, l'ANAES demandait l'EEG. Et puis, on ne trouve rien, un bel EEG avec des ondes alpha partout. C'était beau, c'était magnifique. Et je fais quand même le scanner. Et puis, il est revu par un collègue neuro également. Et là, le scanner arrive pour ce petit nystagmus. Un petit, dans le... Et il avait une énorme tumeur du cervelet. Hein. Je choquais ce monsieur, je le tuais sur place. Hein. Une énorme tumeur, sans syndrome cérébelleux. Sans syndrome cérébelleux. Donc, vous voyez, ça coûte peut-être cher de faire des examens complémentaires, mais ça permet aussi d'éviter la mort. Alors, les contre-indications relatives, décollement de rétine, les anticoagulants, la tumeur cérébrale sans hypertension intracrânienne. Quoi qu'il en soit, les complications cérébrales, telles qu'elles ont été reprises par l'Institut national américain de recherche en matière de santé. Aucune preuve de mort neuronale, premièrement. Absence de lésion cérébrale après un électrochoc. Aucun symptôme par lésion irréversible du cerveau. Donc, vous voyez, c'est quand même... Et puis, réorganisation des connexions synaptiques. Et puis, vous voyez, chez le rat, démonstration d'un effet protecteur de la sismothérapie, d'une neurogénèse, même d'un développement des neurones. Vous vous rendez compte? Développement des neurones. On n'en a déjà pas beaucoup avec l'âge. On les développe. Les fonctions cognitives, ben oui, les fonctions cognitives, des conséquences immédiates, la confusion post-critique. Bon, ça ne va pas durer longtemps. Le syndrome frontal, on en a déjà parlé. Et puis, au long terme, c'est la mémoire qui va être perturbée, avec retour incomplet chez certains, retour complet chez d'autres. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que la mémoire pose un problème. Alors, type de mémoire en fonction en souffrance transitoire, c'est transitoire. Hein. Alors, il y a plusieurs types de mémoire qui sont touchés. C'est surtout la mémoire antérograde, la mémoire épisodique, les choses, les événements récents, les plus récents. Mais moi, je considère que ce trouble de mémoire reste extrêmement important pour éviter ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Parce qu'il a oublié qu'il a pris une corde, qu'il s'est pendu, ou qu'il s'est mis une balle dans le ventre. Il a oublié. Hein. Vous voyez, les événements récents ont été temporairement réduits à néant. Et donc, il n'y a plus ce processus de rumination qui va se mettre en place. Donc, moi, je considère que c'est peut-être un point positif, malgré ce qu'on dit sur les troubles de mémoire. Mais il n'y a pas que la sismo qui entraîne des troubles de mémoire. Il y a bien entendu la dépression entraîne, les collègues en ont parlé tout à l'heure, des troubles cognitifs. Il y a l'anesthésie qui entraîne des troubles de mémoire. Donc vous imaginez que c'est un bloc d'événements qui va entraîner ces manifestations. Alors la mémoire, selon la technique, eh bien là encore, en bilatéral, on met 2 électrodes de part et d'autre, on choque. Ça entraîne plus de troubles de mémoire que les chocs unilatéraux droits. Hein, parce que toute la cognition, le langage, ça se situe à gauche. Hein, donc il y a des bilans préalables de neuropsychologie qui peuvent être réalisés antérieurement pour évaluer le risque. Parce qu'un type qui rentre dans ce qu'on appelle un mode d'entrée dans les processus démentiels... Hein, eh bien, finalement, après, on va dire c'est la sismo. Ben oui, mais si on l'évalue, on ne l'a pas évalué, comment peut-on savoir? Oui, c'est important d'aller l'évaluer. Donc, une efficacité remarquable. C'est une technique qui améliore manifestement les syndromes de la dépression. Les risques de détérioration physique, parce que quand vous êtes déprimé, grave, hein, je ne parle pas des dépressions névrotiques, hein, je ne parle pas de ça, moi. C'est avec refus de s'alimenter, avec la cachexie, avec tous ces problèmes de déshydratation qui peuvent émerger. Eh bien, là encore, on voit des résultats fondamentaux, spectaculaires. C'est une protection pour le patient, une protection pour la famille, mais également une protection pour l'institution. Parce que les infirmiers qui travaillent dans ces structures de psychiatrie, confrontés à la douleur morale en permanence, le fait de voir des résultats spectaculaires, eh bien, ça les valorise. Ça réduit également le passage à l'acte suicidaire. Alors, que retenir de l'ECT? Eh bien, d'abord, c'est une efficacité particulièrement rapide, beaucoup plus rapide que les psychotropes. dans les dépressions résistantes. Il faut toujours commencer, bien entendu, un protocole par antidépresseur avant d'aboutir à la sismothérapie, mais souvent, ils arrivent après 8 mois de traitement. Alors, donc, réduction de la souffrance psychique du sujet, mais également de la famille. Je vais vous montrer des exemples. Réduit le risque suicidaire, prévient les rechutes, hein, les récidives, supprime le stress post-traumatique, améliore la qualité de vie, recours rapide à l'intégration sociale, ça a été dit et redit tout à l'heure par mes collègues, et ça réduit également le coût de l'hospitalisation, la durée de séjour en milieu spécialisé. Alors, est-ce que la femme enceinte, les enfants, est-ce que c'est interdit ? Non, non, il y a des possibilités de le faire si ça échoue à toutes les thérapeutiques. Et le sujet âgé est une excellente indication, parce qu'à partir de 60 et quelques années, eh bien, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans les processus mélancoliques pour lesquels les thérapeutiques restent inefficaces. Alors, pratique de l'ECT, hospitalisation en ambulatoire, hospitalisation ou hospitalisation en ambulatoire, 2 séances par semaine, voilà ce qu'on fait, 6 à 8 séances par patient. Les anesthésiants, ben, c'est le propofol. Le curare, c'est la sélocurine. Il y a une salle de réveil. Quelques données sur le issu du point sorti le 20 août et non pas le 20 juin 2015, sur une enquête de 2014. 20 038 séances pour 66 établissements CHU. 12 245 séances pour les hôpitaux multidisciplinaires. 3 600 pour les hôpitaux psychiatriques dont on fait partie. On est un des rares centres spécialisés à bénéficier avoir développé la sismothérapie, il y a bien longtemps. Et puis 4 120 séances pour les cliniques psychiatriques. Alors l'ECT, il se fait en phase aiguë, bien entendu, de la dépression, mais il se fait aussi en phase pour la consolidation, c'est-à-dire pour éviter les rechutes, et en maintenance pour éviter les récidives de la dépression. Alors voilà ici le schéma de la dépression. Voilà un état normal, puis brutalement vous commencez à avoir des premiers symptômes, vous dormez mal, vous êtes triste, vous n'avez plus envie de rien foutre, là vous perdez du poids ou vous prenez du poids, et puis ça s'aggrave progressivement, vous avez envie de vous flinguer, vous achetez une arme, et puis finalement je ne sais pas ce qui vous arrête, vous êtes traité, et puis finalement vous donnez un traitement antidépresseur, il y a une petite réponse, et puis vous allez être en rémission, hein. Là on est dans ce qu'on appelle la phase aiguë, et bien dans cette phase aiguë vous voyez qui va durer 3 mois à peu près, on peut envisager, bien entendu, soulager les symptômes avec un traitement antidépresseur, mais c'est ce qu'on appelle, c'est durant cette période qu'on a l'électrochoc en phase aiguë de traitement. Et puis, pour éviter les rechutes, finalement, c'est ce qu'on appelle l'ECT de continuation. Et puis, pour éviter la récidive, vous voyez, c'est plus d'un an après, eh bien, on fait ce qu'on appelle des phases de l'ECT d'entretien à raison d'une fois par mois, par exemple, alors que là, on est deux fois par mois, selon un protocole qu'on définit, bien entendu. Alors, en pratique, eh bien, il y a le consentement libre et éclairé du sujet, hein, il est informé. Et puis, méfiez-vous, parce que si, aujourd'hui, vous n'informez pas le patient des risques, notamment les troubles de mémoire, etc., les gens vont porter plainte le plus souvent, demande réparation devant la CRCI. Hein. Donc, il faut informer. Voilà, on peut faire, on fait, on ne fait pas. Bah, s'ils ne veulent pas, on ne fait pas. Puis si on n'a pas l'aval de la famille, bah, on ne fait pas. Il y a un consentement éclairé qu'on fait signer. L'ECT est consigné dans un registre, bien entendu. Au CHS de la Chartreuse à Dijon, il y a 7 secteurs. Sur la Bourgogne, il y a 7 secteurs de psychiatrie. On fait à peu près 600 à 800 actes par an actuellement, 8 patients par jour, 6 à 8 séances par patient, 2 jours par semaine, c'est le mardi et le jeudi, et puis on fait bien entendu ces ECT d'entretien et de maintenance. L'objectif, c'est de créer un centre régional, mais bon, l'hôpital est pauvre aujourd'hui, est en déficit, alors on est bien mal en point, hein. L'objectif, c'est de faire effectivement. On a établi un dossier pour faire de l'évaluation. C'est systématiquement fait. On souhaiterait avancer un peu avec des moyens supplémentaires pour faire de la recherche. On n'a pas les mêmes moyens que Thierry Bougerolles à Grenoble. Hein. Mais bon, on est. Et puis, il est important que tous se forment, tous les PH qui sont là se forment à l'ECT. C'est ce qu'on fait. Tous les gens sont diplômés du diplôme de Bordeaux d'Oriacombe. Alors, en conclusion, thérapeutique du passé, certes, revisitée selon les contraintes législatives. Deuxièmement, c'est une technique qui est réalisée en toute sécurité, d'action rapide, une maîtrise du risque suicidaire. Troisièmement, ça dépasse de toute évidence les techniques de la TDCS et de la TMS. Pour avoir été formé à Boston, à Harvard, chez Pasquale Léon, il y a une quinzaine d'années, parce que l'hôpital n'avait pas d'anesthésiste, et je me suis dit, allons se former là-bas, quoi, hein, on va revenir, on n'a pas besoin d'anesthésiste. Eh bien, je me suis bien rendu compte que les patients n'étaient pas ceux qu'on traitait, et que quand on avait ce genre de patients mélancoliques, ça ne marchait pas. Donc, c'est certainement, ça s'adresse à une autre catégorie de gens que ceux qu'on a, nous, dans nos hôpitaux psychiatriques. Ça réduit le stress post-traumatique de la famille, du patient et puis de l'équipe de soins. Et puis ça empêche également la récurrence de la douleur morale par l'effet amnésiant du traumatisme. Ça évite le stress post-traumatique. Une thérapeutique ancienne d'avenir, pour utiliser la phrase d'un patron, Henri Lowe, qui est là juste à côté, hein, Sainte-Anne. Réduction du temps d'hospitalisation facilite la réintégration du sujet. L'ECT, c'est une alternative à la vie ou à la mort. Hein. Messieurs, mesdames, les décideurs, la responsabilité vous incombe. Hein. En matière d'achat, hein, voilà. Pas d'effet délétère sur le cerveau. Et puis, en conclusion, un témoignage publié dans le journal de l'ECT en 2000. Je ressens parfois un sentiment d'amertume. C'est une patiente qu'on a subi. Il ne se passe guère une semaine sans que je découvre qu'une partie de ma vie s'est effacée dans les cellules de ma mémoire. Malgré cela, je reste persuadé que les électrochocs que j'ai reçus ont peut-être sauvé non seulement ma santé mentale, mais aussi ma vie. Et c'est tout à fait ce qu'on vit, nous, en permanence. Si je devais prendre la même décision aujourd'hui, je choisirais encore le CT plutôt qu'une vie condamnée à l'agonie psychique et même au suicide. Voilà la salle de sismothérapie chez nous. Hein. Ça, c'est la salle de travail. Hein. On fait nos électrochocs, la machine, le lit. Tous les appareils de stimulateur, tous les appareils de contrôle. Là, c'est notre anesthésiste qui oxygène en préalable le sujet parce qu'il va, sous curare, ne plus respirer. Hein, il sera quasiment bloqué. Là, c'est les techniques de surveillance avec le cœur, la tension, le pouls, l'oxygène, enfin bon, bref. Là, on lui met un protège-dents pour éviter les petites fracture de dents. Là, on fait la crise. Voyez, là, vous voyez rien, mais il se passe rien, quoi. Hein, c'est juste une petite secousse, c'est tout. Voilà. Là, on a la preuve qu'il a créé, il a fait sa crise commerciale. Il y a une crise tonique. Hein, et puis là, on voit les petites pointes, là, vous voyez, qui émergent. Crise tonico-clonique avec pointe onde, pointe onde, pointe onde, pointe onde. Et la crise va durer. Voilà. Oh, merde. Voilà, elle va durer. Attendez. Tac, voilà, elle va durer. Non, ben, c'est pas passé, ou ça, on voit rien. Et ça va durer 20 secondes. Voilà, on arrive à 26 secondes, 25 secondes. Vous voyez, le tracé s'aplatit, il n'y a plus rien. La crise est terminée. Et puis, il est de nouveau réoxygéné. Vous voyez, ça se passe. Il est en salle de surveillance, hein, en salle de réveil. Il va rester une demi-heure à peu près. Et puis, voilà la salle de réveil qui a été particulièrement bien lotie, hein, avec du matériel de haut de gamme. Alors, quelques observations, si vous permettez. Une observation. Je m'étais fait agresser parce que je dépensais trop d'argent par mes techniques d'imagerie. Hein. Je demande de l'imagerie. En tant que neurologue, il est évident que j'essaye de trouver une relation entre l'examen clinique et... Bon, enfin, bref. Voilà, une dame de 67 ans, retraitée, hospitalisée, quasiment pendant un an, vous voyez, dans un département à côté. Et puis finalement, la famille mécontente, en souffrance, décide de faire passer la patiente dans le service. L'examen clinique, mélancolie délirante, risque suicidaire persistant, indifférence. Elle a un syndrome parkinsonien, elle est tellement bourrée de médicaments. Maladie neurodégénérative, je m'interroge, donc je fais de l'imagerie, elle a une dyskinésie tardive. On se pose la question, hein, de la douleur morale au douloureux constat. Ben, finalement, inadéquation thérapeutique, 4 neuroleptiques pour un épisode mélancolique, je ne comprends plus rien, stabilisateur de l'humeur, 2 benzodiazépines, un correcteur de la iatrogénie, aucun antidépresseur. Donc moi, j'étais un peu perplexe. Et puis finalement, on fait l'examen clinique, psychiatrique, c'est ce qui coûte cher, hein, me dira le directeur, notamment de l'imagerie. Et puis finalement, le diagnostic retenu, ça reste bien une mélancolie sévère, iatrogénie médicamenteuse, syndrome parkinsonien neuroleptique, dyskinésie. Alors, conduite thérapeutique, un mois d'hospitalisation dans le service avec sevrage et 3 séances de sismothérapie, résolution de l'épisode dépressif, persiste la dyskinésie tardive, bien entendu, se posait la question d'une réparation accident médical, retour à domicile, sismothérapie d'entretien. Alors, 12 mois d'hospitalisation en milieu spécialisé, 575 euros pendant 30 jours, 12 mois, voilà le coût. Ben c'est le coup, finalement. Non, mais c'est, monsieur le directeur n'était pas là. C'est pas ce monsieur le directeur-là. Puis c'était pas lui. Hein, c'était dans un autre département. C'est ce qui avait coûté. Hein. Coût entraîné par le pôle 6 quand elle est venue au service, 17 000 euros. Hein, 3 séances de sismo, un mois, faites le calcul. Une chronicité de 207 000 euros pour des soins adaptés à 17 000 euros. Un delta de 189 000 euros. Alors, pour un hôpital... Une personne dans un service, vous le multipliez par le nombre de personnes qui seraient mélancoliques dans cet état-là, et puis sur un plan national, on a de quoi développer de la sismothérapie un peu dans nos nombreux services de psychiatrie. Voilà, merci de votre attention.
Merci, merci docteur. Je ne vous savais pas si enthousiaste et militant. Alors, le temps peut-être que la rotation se fasse avec Thierry Bougerolles pour la partie recherche, on peut placer, parce que vous avez pris beaucoup de temps dans cette affaire.
Excusez-moi. Ouais, non. Mais j'avais encore deux, trois observations auraient réjoui.
Donc, une ou deux questions. Je ne sais pas si Bruno veut réagir ou compléter de son côté. Je l'ai perdu.
Oui, j'aurais une question pour le docteur Didic, qui est part d'une observation qui débouchera sur une question. Alors, il se trouve que le Bureau national de l'ADES m'a fait un voyage d'études début octobre en Catalogne, à Barcelone, et nous avons visité plusieurs services de psychiatrie, dont un près du front de mer, où il y avait plusieurs cabines, où il y avait écrit sur la porte ESMT. Alors, j'ai posé la question, et on m'a dit « Son cabinas de electrosismoterapia ». Ah, très bien. Et alors, on nous a expliqué qu'il pratiquait les sismothérapies en hôpital de jour. Ce qui m'a interpellé un petit peu, est-ce que ça fait partie, vous, de vos pratiques ?
Absolument. D'ailleurs, je voulais signaler, soit en hospitalisation, soit en ambulatoire, on fait effectivement de la sismothérapie d'entretien en ambulatoire.
Comme pour les sismothérapies d'entretien.
Bien sûr. Mais quand il s'agit d'une phase aiguë, moi, je ne le fais pas parce que j'ai peur. Et puis, je ne veux pas mettre mon directeur en difficulté, vous imaginez bien. Hein, imaginez qu'il se suicide.
Tous les bilans préalables, vous les faites en hospitalisation classique.
Oui, exact. Merci. Exact.